vertueuse, une émission de la femme pour la femme.
Quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, Seigneur.
Femme, Dieu veut restaurer ta vie. Présentation Priscille Agadjou. Production Mission Soleil d'Espoir.
Une chose dans ma vie, Seigneur.
Dis quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie, Seigneur. Dis quelque chose.
Chers amis auditeurs, nous vous souhaitons la bienvenue sur votre émission Femmes Vertueuses. Femmes Vertueuses, femmes chrétiennes, nous apportons de l'espoir dans le cœur de chaque femme désespérée. À travers la parole de Dieu, nous redonnons vie à chaque femme dans son foyer et nous amenons chaque jeune fille à vivre une vie de sainteté et à se préparer au mariage. Bref, Femme Vertueuse parle de tout ce qui concerne la femme au quotidien, apporté à la lumière de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie d'appartenir à Christ, bien sûr. À la cabine technique, Gabrielle Otiniel et au microphone, moi-même, votre sœur, Priscille Agadjou. Le thème d'aujourd'hui est « L'amour de Dieu pour nous et la place qu'occupe la femme dans la société et vis-à-vis de Dieu ». Installez-vous confortablement, on se retrouve juste après.
Chante le Seigneur, mets-y tout ton cœur, la tristesse s'envolera.
Notre thème d'aujourd'hui, comme vous le savez, c'est l'amour de Dieu pour nous et la place qu'occupe la femme dans la société et vis-à-vis de Dieu. Pour commencer, nous allons définir ce qu'est l'amour et l'amour de Dieu pour nous. Le dictionnaire définit l'amour comme un sentiment d'un sexe opposé pour l'autre. L'amour est aussi un sentiment d'affection, d'attachement que l'on ressent pour quelqu'un. Dans le Nouveau Testament, ce thème n'est employé qu'à l'égard des personnes divines et des croyants. L'amour a sa source en Dieu et ne s'exprime qu'en Dieu et par ceux qui sont nés de Dieu. Quand nous remontons au commencement, l'homme devrait mourir après le péché qu'il a commis en mangeant le fruit défendu. Mais Dieu, dans son amour parce qu'il a tant aimé le monde, il a donné une chance à l'homme en envoyant son seul fils mourir sur la croix afin que nous obtenions son pardon et afin que nous soyons réconciliés avec lui. C'est pourquoi la Bible nous dit que Dieu est amour. Et 1 Corinthiens 13, verset 4 nous parle des qualités de l'amour. L'amour est patient. Il n'est pas envieux. Il ne s'irrite pas. Il n'est pas prompt à offenser. Il n'établit pas non plus comme comptable la liste de tout ce qu'on lui a fait. Il ne médite pas le mal. Il ne tient pas compte du mal. Plutôt, l'amour s'associe à la vérité pour se réjouir lorsque le mal est vaincu. Il pardonne tout et a toujours confiance en autrui, même lorsqu'il se sent offensé. L'amour attend avec patience le triomphe de la vérité et fait preuve d'une endurance indéfectible. L'amour chrétien peut être défini comme le plus grand don, car il est éternel. Il sera encore là quand les autres dons spirituels auront disparu. car il est Dieu. Voilà ce que représente l'amour de Dieu pour nous. Alors, quelle place la femme occupe dans la société et vis-à-vis de Dieu? Parlant de la place qu'occupe la femme dans la société et vis-à-vis de Dieu, la femme a sa raison d'être dans la société et elle occupe une place considérable dans la famille en général et plus précisément dans son foyer, dans son milieu de vie, dans son entourage et dans la société où elle est. D'elle dépendent beaucoup de choses. Et quand nous ramenons cela à la parole de Dieu, le Seigneur lui-même accorde une très grande place à la femme. Et le Seigneur est attentif et exauce ses prières. Grâce à l'exaucement de la prière d'Esther la reine, les Juifs ont été sauvés et Haman humilié. D'elle dépendent beaucoup de choses. Et quand nous ramenons cela à la parole de Dieu, le Seigneur lui-même accorde une très grande place à la femme, et le Seigneur est attentif et exauce ses prières. Grâce à l'exaucement de la prière d'Esther la reine, les Juifs ont été sauvés. Esther ne compta pas seulement sur le jeûne et les prières, elle réfléchit aussi à la manière de s'approcher du roi. Pour l'occasion, elle mit ses vêtements royaux comme si elle devait se présenter à une réception officielle. Elle savait qu'en se parant ainsi, elle avait plus de chances de plaire au roi. Puis elle courut le plus grand risque de sa vie. Elle défia le protocole qui interdisait à toute personne de se présenter devant le roi, sans y avoir été invitée. Dans une tentative désespérée de sauver les Juifs, elle mit sa vie en jeu, car elle savait que seule l'intervention du roi pouvait épargner son peuple. En cette circonstance, elle fit preuve de courage et d'une foi remarquable. Le roi Assuérus siégea sur son trône quand Esther apparut. Il dut certainement être surpris de la voir. Quant à elle, elle dut être terrifiée dans l'attente de sa réaction. À son grand soulagement, il fut heureux de la voir et lui tendit son sceptre en guise de bienvenue. Avant même qu'elle ait pu lui indiquer la raison de sa démarche, il lui promit jusqu'à la moitié du royaume. En d'autres mots, il lui pardonnait d'être venu de façon impromptue. Bien que le roi lui ait d'avance promis de faire ce qu'elle demandait, Esther ne formula pas sa requête tout de suite. Elle l'invita avec Haman à un banquet qu'elle organisait. Esther suivait une coutume du Moyen-Orient qui voulait que les affaires se traitent après un bon repas. Elle s'était certainement rendue compte que ce n'était pas le bon moment de présenter sa requête. Elle préférait attendre le bon moment, le moment opportun, l'heure de Dieu. Ce délai accroît la tension du récit. Esther donne un bel exemple de croyante prête à prendre des risques. Elle n'agit pas sur un coup de tête, mais prit le temps de prier et de jeûner afin d'exposer sa vie. Et au moment d'agir, elle fit appel à toutes ses ressources et à son habileté pour connaître la meilleure façon de faire. Elle était belle. Elle savait que le roi appréciait le bon vin et la bonne chair, et elle avait les moyens d'organiser un festin. En ce qui nous concerne, examinons comment utiliser au mieux les ressources que le Seigneur nous a confiées pour les mettre au service de Dieu. Nous pouvons aussi lire dans la Bible l'histoire de Anne, qui suppliait le Seigneur pour avoir un enfant et dont la prière a été exaucée par le don d'un enfant. Élie prononça sur elle une bénédiction et Anne repartit avec l'assurance que Dieu s'occuperait de son cas. Ainsi, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Elle savait que sa prière avait été exaucée. Et elle reprit ses occupations comme si elle n'avait aucun problème. Comme les patriarches, Elle croyait aux promesses de Dieu, même si elle ne les avait pas encore vues s'accomplir. Et elle n'attendit pas d'être enceinte pour se réjouir et se remettre à manger. Elle le fit dès que ses responsabilités en ce lieu de prière le lui permirent, parce qu'elle savait que l'affaire était entre les mains de Dieu. Pénina, sa coépouse, dut être très surprise par ce changement d'attitude. Les effets de la bénédiction du Seigneur ne se font pas attendre. Elkana, son mari, bien sûr, et Anne avaient dû avoir bien souvent des rapports sans qu'un enfant soit conçu. Mais cette fois, le résultat fut différent. Dieu agit en réponse à la prière désintéressée d'Anne. C'était psychologique. L'état physiologique qui avait causé sa stérilité était miraculeusement guéri. Rien n'est trop difficile pour Dieu et rien n'est trop ordinaire pour être utilisé par lui en vue d'une bénédiction, de sorte qu'un enfant naquit à Elkana et Anne fut très heureuse. Vous pouvez lire l'histoire dans 1 Samuel 1, verset 15 à 28 et 1 Samuel 2, verset 1 à 28. Nous allons prendre une petite pause. On se retrouve juste après.
Comment te dis-je que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes. Traduisent mes silences. Comment te dis-je que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de...
Chers amis auditeurs, je voudrais aussi parler de l'histoire de la Tsunamite, cette femme dont la foi est très grande. Élisée devait venir en personne. Un couple de Sichem offrait l'hospitalité au prophète Élisée, chaque fois qu'il passait par là. Ils avaient même préparé et meublé une pièce à son usage. Témoigner de l'hospitalité à un homme de Dieu renferme sa propre récompense. Mais Élisée voulait faire quelque chose pour montrer sa reconnaissance. Le mari et la femme n'avaient aucune ambition de devenir grand ou obtenir un poste dans l'armée. Mais il leur manquait un fils. Comme ils n'avaient pas d'enfant à eux, ce serait un peu une grande bénédiction d'en avoir un. Le prophète promit à la femme que, comme Sarah, elle aurait un fils, en dépit de l'âge de son mari. Mais la parole du prophète s'accomplit, et l'année suivante, elle donna naissance à un fils. L'enfant grandit malheureusement et un jour, il fut frappé d'une maladie qui causait de forts maux de tête. Il mourut dans les bras de sa mère. Bouleversée, celle-ci coucha son fils mort sur le lit de l'homme de Dieu et se mit à la recherche d'Élisée. Elle gardait peut-être de minces espoirs qu'il pourrait ramener à la vie l'enfant qui lui avait été donné. Mais la femme insista pour y aller. N'est-il pas étrange que ce soit la mère et non le père qui se déplace? Le mari fut surpris de voir qu'elle allait chercher Élisée ce jour-là, car ce n'était ni nouvelle lune, ni sabbat. C'était peut-être les deux seules occasions où on pouvait trouver Élisée à la maison. Mais la femme insista pour y aller. N'est-il pas étrange que ce soit la mère et non le père qui se déplace? Ou en tant que mère, n'avait-elle pas son enfant plus à cœur que le père? On peut également supposer que le père avait déjà accepté cette mort, tandis que la mère ne voulait pas y croire. Elle dit à son mari, « Tout va bien. On pouvait encore guérir son fils. » D'un autre côté, le mari est décrit comme un vieux, ce qui laissait penser qu'elle était bien plus jeune que son mari. Quelle que soit la raison, elle avait la foi et sa foi la poussèrent à l'action. Elle couvrit aussi vite que possible les 40 kilomètres qui séparaient Suchène du Mont Carmel. Élisée la vit arriver de loin et envoya son serviteur Géasi demander ce qui n'allait pas. Mais elle refusa de dévoiler le but de sa visite jusqu'à ce qu'elle puisse étreindre les pieds d'Élisée. Élisée devrait venir en personne. Quand Élisée arriva, il pria le Seigneur. Avant de s'allonger sur le corps de l'enfant, la vie revient en lui et Élisée la rendit à sa mère qui était débordante de joie. Vous pouvez lire la totalité de l'histoire dans 2 Rois 4, verset 8 à 44. On a tellement d'exemples dans la Bible de femmes dont la prière ont été exaucées par le Seigneur, de femmes qui ont fait preuve de foi. Chère maman et chère jeune fille, voici le genre de femme que le Seigneur agrée, celle qui craint l'Éternel. La femme sage est celle qui bâtit sa maison. Elle la construit et le Seigneur lui donne l'intelligence et la sagesse pour gérer les difficultés qu'elle rencontrera dans son foyer et dans sa maison, comme on vient de le dire. Nous voici à la fin de notre programme « Femme vertueuse ». Je vous demande de lire attentivement ces chapitres. Cela regorge de beaucoup d'enseignements pour nous les femmes chrétiennes. Merci de m'avoir écouté. Prenez le rendez-vous pour la prochaine fois et que le Seigneur vous bénisse.
Femme vertueuse. Femme vertueuse, une émission de la femme pour la femme.
Quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, Seigneur.
Femme, Dieu veut restaurer ta vie. Présentation Priscille Agadjou. Production Mission Soleil d'Espoir.
Une chose dans ma vie.